Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'FC Stream Team. Je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport, et pour m'accompagner, Maxime.
Attends. Avant de me présenter, parce que je sais que tu vas faire ça, et tu sais que cette séquence est peut-être la plus attendue de l'émission. D'ailleurs, ça peut-être remettre en cause la suite derrière. Aujourd'hui, on a reçu une lettre très sympa signée Tristan Mauzurga, qui dit des choses super sympas sur Eurosport.fr. Ça fait plaisir parce que c'est pas toujours qu'on reçoit des belles lettres comme ça. Et il a cité notamment un passage qui m'a beaucoup intéressé, qui dit qu'il écoute la Stream Team alors qu'il n'est pas un grand fan de foot, ce qui est plutôt sympa aussi. Et il dit « J'apprécie grandement Martin et sa manière de présenter Maxime ». Alors là, j'ai envie de te dire, Martin, comme on dit en anglais, « The floor is yours », c'est à toi d'être bon parce que là, tu es écouté aujourd'hui. Donc, eh ben, sors-nous ta plus belle vanne, ta plus belle présentation, parce que là, je peux dire, il y a du monde qui écoute.
Ok, donc c'est pour toi, Tristan. Il est à Eurosport, ce Kulric Ramé fut au Bordeaux des années 2000, le gardien du temple à valeur sûre. Il est à cette émission, ce que Christophe Jallet fut à la Ligue 1 des années 2010. Pas le meilleur ballon au pied, mais toujours juste dans ses analyses. Comment ça va, Maxime Dupuy?
Bah ça va, écoute, bon, c'est pas mal.
C'est pas mal?
C'est pas mal.
Christophe Jallet, ça te va plutôt bien, non?
Ouais, tu dis ça pour les cheveux?
Ça t'ira surtout très bien dans 5 ans, Christophe Jallet. Ouais,
mais ça fait 10 ans que tu dis ça, regarde, ça bouge pas, regarde. Ouais, au contraire, je me remplume, jour après jour.
Et alors, si vous voulez voir Maxime se remplumer, on rappelle hein, que toutes les vidéos, parce que là, si vous écoutez ce podcast, vous savez peut-être pas à quoi ressemble Maxime Dupuy, donc il faut aller sur Eurosport.fr pour voir les vidéos du FC Stream Team. Et bah, si vous voulez vous abonner à ce podcast, au FC Stream Team, comme Tristan vous le suggère aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, Maxime?
Eh ben, vous allez sur les bonnes plateformes de podcast, évidemment. Vous allez du côté de Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast, Deezer, Spotify. Il y a un bouton à abonner quelque part, vous appuyez dessus, ce qui fait que tous les vendredis, vous recevez l'émission automatiquement dans votre téléphone ou ailleurs. Et puis en plus, comme vous nous aimez bien, vous mettez 5 étoiles et on reviendra la semaine suivante et Martin fera encore une magnifique présentation et il aura vraiment mauvaise le jour où, d'ici un an, j'aurai les cheveux longs jusqu'aux oreilles.
Ouais, alors là, je pense qu'on a un tout petit peu de marge quand même, Maxime. Bah, de quoi non, on va parler aujourd'hui? On va évidemment parler de l'équipe de France. Alors, non pas coiffure, même si on pourrait parler coiffure au niveau de l'équipe de France. Même si ça s'est assagi. D'ailleurs, ce serait un vrai sujet.
Et c'est un vrai sujet parce que ça s'est beaucoup assagi alors qu'il y a eu une période assez folle dans l'évolution capillaire des Bleus.
2014, c'était n'importe quoi.
Là, on est sur un truc très classique. Et vu comme ça, je me demande quelle est la coupe de cheveux la plus excentrique de l'équipe de France et je ne l'ai pas.
Bon, ça reste peut-être la touffe de Griezmann. Mais bon, il se fait une petite couette, un petit bun. Mais ouais, c'est vrai que même Pogba est sage aujourd'hui. Donc c'est vrai que les coiffures, c'est plus vraiment un sujet en équipe de France, contrairement à la tienne, Maxime.
Ouais, le petit bun t'irait très bien d'ailleurs.
Il faut que je me laisse pousser les cheveux. Me laisse pousser les cheveux. Mais sache que je fais un bun à mon fils de 2 ans et qu'il adore ça.
Voilà, oui, d'ailleurs, ne lui coupe pas les cheveux d'ailleurs, ça lui va très bien.
Mais, merci, Maxime. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va aborder un premier sujet avec. On va se poser la question, quelle urgence pour Deschamps? Quel trou dans sa liste des 23, dans son groupe? Voilà, on essaiera de faire un petit tour du terrain de l'équipe de France. Et on essaiera d'analyser un petit peu les faiblesses de ce groupe de l'équipe de France. En deuxième partie, Maxime, on parlera des tauliers, Varane, Pogba et Griezmann.
Ouais, Varane, Pogba, Griezmann, c'est depuis l'Euro 2016, même si Varane n'était pas là, mais sur cette période post-Euro, évidemment, la colonne vertébrale de l'équipe de France. Et on va se demander si cette colonne vertébrale aujourd'hui fait encore sens, si elle peut encore résister, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de mou, on va dire, dans la corde à nœud, que ce soit du côté de Varane, que ce soit du côté de Pogba et du côté de Griezmann. Et on se posera la question suivante, s'il y en avait un demain à remplacer, parce qu'on est obligé, lequel serait le plus simple à remplacer avec ce qu'on a et avec ce qu'il apporte sur le terrain?
Et on fera un troisième sujet sur l'expression « il y a un peu de mou dans la corde à nœud ». Parce que celle-ci, je ne sais pas d'où tu l'as sortie. Je ne sais pas d'où elle vient, celle-ci. Mais elle vient très, très loin. Il y a un peu de mou dans la corde à nœud. Et on terminera avec l'euro. on se posera la question, l'Euro en danger, est-ce qu'il peut être encore annulé? Voilà. Est-ce que on pourrait faire une croix sur l'Euro à cause de la pandémie de Covid, bah, qui sévit toujours en Europe, malgré les promesses de vaccins? On peut se dire qu'en juin prochain, on pourrait être dans la même situation.
Et t'es bien placé pour le savoir, non pas pour le vaccin, non pas pour les promesses, mais parce que tu es actuellement en train d'enregistrer cette émission de tes toilettes.
Exactement, de mes toilettes, et le Covid n'y est pour rien.
c'est pas le Covid qui te guette là.
On va démarrer cette émission qui démarre sur de bonnes petites bases avec donc quelle urgence pour Deschamps. Voilà. On va se poser la question avec Maxime, on va faire un petit tour du terrain. Des bleus de la liste des 23 aussi. On va se demander quels sont les trous avant les deux derniers matchs de 2020. Où est-ce qu'il y a encore des faiblesses dans ce groupe de l'équipe de France? Où est-ce qu'au contraire, on sait que le groupe est a priori cadenassé, la place prise par déjà deux voire trois solides cadres? Maxime, on va démarrer avec les gardiens. Là, il n'y a pas trop de suspense puisque... Il y en a trois qui se sont installés maintenant, qui semblent en tout cas installés pour l'Euro, c'est Lloris, Mandanda et Mike Maignan.
Oui, c'est assez clair, on le voit dans cette liste-là d'ailleurs. Et Hugo Lloris, 118 sélections, bah, lui évidemment c'est le taulier. Mandanda, il en est à 34, plus une centaine sur le banc, lui il est aussi le deuxième taulier. C'est des joueurs qu'on a l'impression qu'ils seront là ad vitam aeternam, s'ils sont là depuis plus de 10 ans, même 12 ans pour Mandanda. Et derrière, bah, il y a Mike Maignan qui semble avoir fait son trou, mais... Comme on le voit avec cette liste-là, bah on a aussi Benoît Cossil qui est juste derrière. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, Alphonse Areola, le champion du monde. Donc oui, sur les gardiens de but, il y a ce qu'il faut, même si on peut imaginer que les trois, on les connaît déjà. Ce sera donc Lloris, Mandanda et très probablement Mike Maignan pour aller à l'Euro. Si on se penche dès le côté droit de la défense, arrière-droit, que déjà, bah, y a une petite zone, on va dire, orangée, parce qu'il y a des certitudes qui sont bordées d'incertitudes tout de même.
Exactement, la certitude c'est évidemment Benjamin Pavard, sauf blessure, il sera là à l'Euro puis il sera titulaire. Ensuite derrière c'est un peu compliqué quand on voit que Deschamps a appelé Ruben Aguilar, c'est dire si quand même le réservoir n'est pas hyper profond. Hein. Aguilar on rappelle quand même, hein, c'est très très peu d'expérience internationale, voire pas du tout. Donc c'est pour l'instant Léo Dubois qui est devant parce que voilà, il a joué la Ligue des Champions notamment avec Lyon, on sait que ça compte. Mais Léo Dubois, il est loin d'être indiscutable, donc on n'est pas à l'abri d'une météorite qui déboule et qui remet tout ça en cause. Dans l'axe droit, c'est un peu pareil, Maxime. Derrière Varane, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Mais finalement, aucune tête qui dépasse vraiment. On a Kurt Zouma pour le moment parce qu'il fait un bon début de saison avec Chelsea. Et puis parce que voilà, ça fait longtemps, mine de rien, qu'il est appelé en équipe de France. Mais il y a du monde derrière et c'est très difficile d'avoir une hiérarchie claire. Là encore, on a mis... une zone un peu orangée parce que derrière Varane, c'est un peu plus flou.
Oui, c'est un peu plus flou et ce que tu dis autour de Zouma est vraiment révélateur. C'est-à-dire que Zouma, il est en équipe de France depuis, je crois, à peu près 5 ans. Il n'a que 6 sélections, dont celle-là. Et on sent qu'il n'y a pas une solution très nette derrière Varane, mais c'est aussi parce que, bon, on sait, Rami a terminé, etc. Mais c'est aussi parce que, justement, Varane est le taulier. Donc, c'est une zone que je dirais orange clair parce qu'on est censé avoir quand même une solution première qui est importante, c'est-à-dire... Varane, mais comme tu le dis, reste à trouver le parfait complément et le gars qui viendrait en cas de coup dur. Et pourquoi pas Zouma, il fait un début de saison très remarquable avec Chelsea et peut-être que finalement, c'est peut-être son moment à Zouma.
Pamecano, Koundé et Fofana qui est monstrueux avec Leicester sont quand même des recours qui peuvent être intéressants, qui pour le moment manquent un petit peu d'expérience. À gauche, à côté de Varane, ça semble être déjà plié, avec même si Clément Langlais a été... Je vais dire catastrophique, c'est peut-être un mot un peu dur, mais elle a été très bon. Pas très bon, oui, pour utiliser la litote face à la Finlande. Clément Langlais et Presnel Kimpembe. Alors, la hiérarchie pour le poste de titulaire est floue. Peut-être que Kimpembe a pris les devants, notamment après son match face au Portugal, en muselant Ronaldo notamment. Mais en tout cas, ces deux-là semblent avoir un petit peu d'avance sur... un troisième larron qui pourrait être Aymeric Laporte, mais qui semble loin aujourd'hui dans l'esprit de Didier Deschamps.
Ouais, il y aurait une vraie logique à mettre pour moi Kimpembe à côté de Varane, parce que là on est sur deux défenseurs centraux avec un profil différent, quelqu'un qui est plus en duel dans le contact et l'autre qui est plus sur la relance et la couverture. Donc sur le papier, c'est vrai que ça ressemble à quelque chose. Et cette zone-là, si on avait dû, entre le vert et orange, on est quand même vers un orange très très clair qui tourne au vert. On va dire qu'au moins sur les titulaires, on a quelque chose d'assez clair.
C'est encore à gauche, plus c'est clair de chez Clair, Maxime.
C'est clair de chez Clair, voilà. Lucas Hernandez est revenu, on a vu ce qu'il a fait. C'est la lignée de sa Coupe du Monde qui était excellente. Son remplaçant, tout trouvé, semble être. Encore une fois, j'ai envie de dire Digne, parce que Digne, ce sera... quand on tirera peut-être le fil de sa carrière en équipe de France, à moins qu'il passe devant un moment sur une blessure ou peut-être que sur sa forme, ça restera quand même une solution de sécurité quand même XXL. On l'a vu face à la Finlande avec Marcus Thuram, c'est le seul joueur qui a apporté une forme de satisfaction. Il est excellent avec Everton. Donc à gauche, a priori, sauf blessure et sauf évidemment méforme exceptionnelle, c'est à peu près plié sur les deux personnes qui iront à l'Euro.
Et simplement, pourquoi ne pas mettre Lucas Hernandez en axial gauche, Lucas Digne en arrière-gauche, ça pourrait permettre de les faire jouer tous les deux. Surtout que Lucas Hernandez, on sait qu'au Bayern Munich, il sera appelé à jouer sans doute axial très très rapidement. Donc pourquoi pas, ça pourrait être une solution. Au milieu aussi, ça semble très très clair. Autour du duo Kanté-Pogba, qui, si l'équipe de France joue comme elle a joué à la Coupe du Monde, et c'est ce système qu'on a privilégié, donc avec le double pivot, bah, ça sera Pogba-Kanté. Ils ont beaucoup beaucoup d'avance sur la concurrence. Et derrière, ça semble aussi assez net. Il y a trois hommes qui se détachent, Rabiot, Eduardo Camavinga, puisqu'il a fait d'excellents débuts avec l'équipe de France, et évidemment Corentin Tolisso, qui est le couteau suisse et qui est sans doute le recours numéro un derrière Paul Pogba. Et ces cinq-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance sur Nzonzi, qui s'est un peu grillé en plus face à la Finlande, et qui est quand même sur des prestations, j'allais dire rarement mauvaises, sauf la Finlande, mais souvent neutre. Et ça, au bout d'un moment, il va finir par le payer. Et voilà, je les vois, Ndombele et Sissoko partent aussi de plus loin.
Ouais, et puis comme tu le dis, pour Nzonzi, c'est pas la première fois. Et c'est surtout, c'est pas tant qu'il se rate ou qu'il se réussisse, c'est souvent neutre, comme tu le dis. Et on sent que c'est pas le joueur qui va t'apporter la petite étincelle, qui va prendre le risque, qui va aider à casser les lignes, qui va apporter le petit truc le jour où tu as besoin de trouver la lumière autrement que par les quatre de devant. Et ça, ça peut arriver avec Tolisso, ça peut arriver avec Rabiot, ça peut même arriver avec Kanté. Pogba, j'en parle pas quand ça va bien. Donc il y a tous ces joueurs qui ont un panel. Et ce qui est intéressant dans les cinq que tu as cités précédemment, c'est que pour le coup, il y a une vraie, sinon complémentarité, diversité de profils. Avec, tu as une arme quasiment, tu peux avoir une réponse à chaque problème qui est posé au bleu. Donc ça, c'est vrai que le milieu de terrain, hormis les méformes de Pogba, parce que ça, on en reparlera tout à l'heure, c'est un souci. Mais sinon, sur la globalité, on a quand même quelque chose qui ressemble à un très très bon milieu de terrain, un très très bon entrejeu. Et pour juste une parenthèse, on va passer devant. Donc vous remarquerez qu'on a mis le format de jeu de la Coupe du Monde 2018 parce qu'on est parti du principe que finalement, c'est celui qui a apporté le plus de satisfaction, le plus de sécurité. On n'a pas mis 5 derrière ou 3 comme vous voulez. Parce que mon petit doigt me dit que Deschamps ne va peut-être pas pousser très longtemps dans cette façon de faire. Et justement, s'il ne pousse pas avec les 5 de derrière, il y a moins de chances qu'il soit à 3 devant, puisque l'idée, c'était justement de mettre en valeur les 3 de devant en ayant une arrière-garde beaucoup plus élargie. Donc, on a choisi le 4-4-2 ou 4-2-3-1.
Alors, on va démarrer à droite avec... là, ça semble plutôt clair. En tout cas, si Mbappé... Si l'axe est réservé à Giroud et Griezmann, Mbappé, il démarrera, quoi qu'il en soit, donc ce sera à droite. Il y a aussi Coman, donc il y a deux options qui sont très claires à droite. On va pas y passer 107 ans, Thauvin est très très loin, les autres aussi, donc a priori, Coman, Mbappé. Devant Maxime, derrière Giroud et Griezmann, qui sont évidemment encore inévitables et incontournables, et ce sera sans doute le cas en juin, sauf blessure, il y a Martial, une des rares têtes qui dépasse. Ouais. Mais derrière Martial, c'est le flou le plus total.
On parlait des caps, des sélections de Nzonzi qui étaient trop neutres. Que dire de Ben Yedder ? Voilà, c'est Ben Yedder qui en est, je pense, à 11 sélections, il me semble. 2 buts qu'il avait mis l'année dernière, je crois, contre Andorre à 2 matchs de suite. Et le reste, ça ne pèse pas, ça ne marche jamais. Qu'il soit avec Giroud, qu'il soit tout seul, ça ne le fait pas. C'est compliqué pour lui parce que c'est un joueur hyper talentueux. C'est un type qui démontre avec Monaco qu'il a quelque chose. C'est un buteur patenté. Mais n'empêche que ça ne marche pas avec l'équipe de France. Et lui, comme Nzonzi, à un moment, son crédit, il s'amenuise forcément parce qu'on ne peut pas continuer constamment à l'utiliser. Regarde, c'est l'anti-Giroud. C'est-à-dire que Giroud, on lui reproche de ne pas jouer en club, ce qui est d'ailleurs toujours le cas cet automne, et dont personne ne parle absolument. Mais tant mieux pour lui.
C'est vrai.
Mais comme il marque en équipe de France, on ne peut pas lui reprocher et de garder ce crédit-là. Donc c'est très bien. Et comme tu dis, derrière Griezmann, c'est aussi compliqué. La solution évidente, ce serait fameux Fekir comme à la Coupe du Monde 2018. Souvenez-vous, à chaque fois qu'il sortait, c'était Fekir qui rentrait. Mais c'était souvent assez neutre. Il y avait eu contre le Danemark, c'était peut-être un des moins mauvais pour ce troisième match cataclysmique. Mais derrière, comme tu dis, en fait, c'est pas tant de rater, c'est d'être neutre, en fait, de jamais apporter. C'est un mal dont on a parlé assez de manière récurrente en équipe de France. C'est les remplaçants qui n'arrivent pas à apporter ce petit plus. Et ça, on est en plein dedans, justement, quand on regarde l'attaque, que ce soit derrière Giroud ou derrière Griezmann. Et comme tu le disais, tu l'écrivais, pardon, justement, hier, finalement, la meilleure doublure de Giroud ces dernières années en équipe de France, ça a été Giroud, là, tout simplement. Derrière, c'est à peu près le néant et c'est compliqué, pour le coup.
Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de profil qui se détache. Dembélé et Edouard, les espoirs, pour l'instant, ils n'arrivent pas à passer le niveau supérieur. Pléa est venu quelques minutes. On a eu Gamero il y a longtemps. Mais voilà,
la casette,
il est boudé par Didier Deschamps et on le sait, et il ne reviendra pas de toute façon. Donc, peut-être que aussi Deschamps, et c'est à ne pas exclure, ne choisira pas de doublure à Olivier Giroud comme il l'a fait pendant la Coupe du Monde 2018, parce qu'il se dira que Mbappé peut jouer dans l'axe. Donc, c'est une possibilité aussi qu'il ne faut absolument pas exclure. Reste, Maxime, le gros point noir ou le gros point rouge de cette construction de groupe, c'est que depuis que Matuidi est parti aux États-Unis, on se rend compte que c'est très difficile de le remplacer, parce qu'on peut avoir des profils, Mbappé, Coman par exemple, qu'on peut mettre à gauche, mais qui auront du mal à stabiliser le 11, parce qu'on sait que défensivement, c'est un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué pardon, que Matuidi. Et il n'y a pas vraiment de profil qui se dégage sur ce côté gauche, Maxime, d'incontournable.
Ouais, et la preuve par l'absurde, c'est justement que Marcus Thuram, on a l'impression qu'il a marqué d'énormes points mardi en étant plutôt bon, et il l'a été. Première sélection, encore une fois, pas timide, il a dribblé pas trop, il a provoqué, il a fait ce qu'il avait fait à faire, il a récité sa partition plutôt bien. Donc du coup, dès qu'il y en a un qui semble faire des bonnes choses, on se dit « Ah bah lui, il a une solution, c'est peut-être lui. » Ce rôle-là…
Le problème de Thuram, c'est que c'est très fragile. Hein. C'est une
Tu peux pas. Et on revient 2 ans en arrière, parce qu'il faut revenir en arrière. On va se passer un peu la pommade, mais ce qu'on vous disait pendant le Coupe du Monde, c'est que, bah oui, évidemment, Thuram, Matuidi, ce n'est pas une solution naturelle. Mais c'était un sacrifice qui était nécessaire pour l'équilibre de cette équipe. Et la preuve par l'absurde, c'est qu'elle a été championne du monde. Donc aujourd'hui, c'est bien beau. Matuidi, on a rigolé, on a beaucoup rigolé. Oui, les pieds carrés, oui, ceci, cela. Ben oui, mais Matuidi, il tenait la baraque. C'est quand il n'est pas là qu'on ne le voit plus. Et on peut regretter aussi qu'un joueur qui a eu 25 ans le jeudi, qui s'appelle, je crois, Thomas Lemar, ne soit pas là. Parce que lui, il avait vraiment le profil parfait. C'est-à-dire que le travailleur du côté, le type qui pouvait déborder, et un pied gauche de très haute qualité. Donc voilà, on en revient à une solution où on ne sait pas trop quoi faire. Et Thuram est intéressant pour faire le lien avec l'axe. C'est que Thuram, bon, évidemment, on l'a vu sur le côté, mais on l'a vu aussi dans l'axe face à la Finlande. Donc il peut aussi remplir un peu ce vide-là. Mais comme tu le dis, oui, une sélection, on ne va pas faire un jugement sur l'instant, tomber là-dedans, ce serait ridicule parce qu'il suffit que sur ces 2 prochains matchs, il soit mauvais, on dira qu'il est trop neutre. Voilà. Donc en l'occurrence, voilà, c'est vraiment le point noir, le point rouge, on va dire, de cette sélection, d'avoir personne qui remplit ce côté gauche.
Pour moi, il y a 5 profils qui peuvent se détacher pour ce côté gauche. Alors ce que je disais, il y a le profil Mbappé-Coman, donc tu mets Mbappé à gauche et Coman à droite ou l'inverse. Le problème, c'est que quand même, je pense, face à des grosses sélections qui auront un potentiel offensif majeur, ça me paraît un peu cavalier de mettre à la fois Mbappé et Coman. Il y a Marcus Thuram aussi, qui a un profil très offensif. Il y a Ousmane Dembélé, qui lui est un pur ailier, hein, contrairement à, et qui va te permettre d'écarter le jeu beaucoup plus, contrairement par exemple à Mbappé. Ça peut, avec Coman et Dembélé, ça peut vraiment, vraiment écarter sur les ailes, mais c'est pareil, hein. Défensivement, c'est léger. Il reste une solution, Maxime, si on veut remplacer Matuidi dans l'esprit. Et on sait que c'est un joueur qui peut s'adapter à ce poste-là. C'est Eduardo Camavinga. Camavinga qui a joué à droite avec l'équipe de France, qui pourrait jouer à gauche. Alors, ça paraît aujourd'hui un peu étrange, un peu bizarre. Mais quand Didier Deschamps a décidé de mettre Matuidi, ça paraissait étrange et ça paraissait très bizarre. Mais si on veut un peu cadenasser cette aile gauche, rééquilibrer l'équipe de France en 4-3-3 en phase défensive, mettant Griezmann à gauche dans un rôle un peu plus défensif et en mettant 3 milieux axiaux qui seraient donc Pogba, Camavinga et Kanté, ça peut être le successeur de Matuidi, Camavinga.
Ouais, et on a vu aussi, je crois que c'était contre Arsenal, c'est Pogba qui a joué un moment sur ce rôle un peu là, sur le côté gauche. Ça n'a pas été forcément une grande réussite. Mais oui, comme tu dis, mais après, moi j'ai envie de dire, si Deschamps a envie de revenir à ça, pour l'Euro, j'en doute, hein, pour être tout à fait honnête. Faut peut-être aller chercher Matuidi, tout simplement. Voilà, il y a toujours point d'interrogation de l'Inter Miami, de la MLS, tout ça. Mais à un moment, pourquoi pas. Je pense que Matuidi en a encore dans le coffre. Souvenez-vous de Gignac quand il est revenu du Mexique. Évidemment, le Mexique, c'est sûrement un niveau au-dessus de la MLS, mais n'empêche qu'il n'a pas juré dans le paysage français. Voilà. On n'en est pas là, évidemment. Je pense que Deschamps va encore tenter des choses à gauche, et notamment contre le Portugal. Mais c'est vrai que c'est le point d'achoppement de cette équipe de France. Et ce qui est marrant, finalement, c'est que c'était le point d'achoppement aussi de la Coupe du Monde. Et il avait trouvé la moins mauvaise des solutions en même temps Matuidi. Et ça reste un petit souci alors que partout, on est fourni de joueurs. Et même sous ce côté-là, finalement, il y a des joueurs. Mais on n'arrive pas à trouver le bon, tout simplement.
Ce qui est sûr, c'est qu'on en saura un peu plus après le match contre le Portugal. Parce que ce sera sans doute l'équipe type. Alors, à voir avec le bulletin de santé de Kylian Mbappé. Et on verra qui débute à gauche. Maxime, on va quand même parler d'un vrai problème pour Didier Deschamps en cet automne un peu bancal pour certains cadres en club, en tout cas. C'est la colonne vertébrale qui tient cette équipe de France, qui l'a tenue à la Coupe du Monde en tout cas, à savoir Varane, Pogba, Griezmann, qui sont peut-être trois des joueurs les plus importants des Bleus sous Didier Deschamps. Et ces trois hommes qui ont des grosses difficultés en club, qui ont passé une année 2020 assez compliquée. Pour rappel quand même, Paul Pogba, il a eu 210 jours d'indisponibilité depuis septembre 2020, principalement pour un problème avec la cheville, mais oui, il a aussi contracté la Covid. Varane, cette année, il a joué déjà 1305 minutes et on sent qu'il pioche, qu'il est en difficulté du côté du Real Madrid. Et Griezmann, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, qui n'a marqué que 11 buts en 40 matchs en 2020, donc il est très très loin de ses standards. À Barcelone, il est dans une vraie crise de confiance. Maxime, ma première question, elle est volontairement provocatrice, quand on sait ce que ces trois-là ont apporté à l'équipe de France, mais est-ce que Varane, Pogba et Griezmann, à terme, et quand je dis à terme, je pense à l'Euro, peuvent devenir des boulets pour Didier Deschamps et pour cette équipe de France?
Alors en effet, elle est volontairement provocatrice. Et je vais répondre par la réponse très simple, c'est non. Voilà. Y a un truc qu'il ne faut pas oublier, qui parle en leur faveur, parce que ça parlait aussi en faveur des autres, c'est que l'équipe de France est aujourd'hui un club, on le répète encore une fois. L'équipe de France, c'est une parenthèse toujours un peu enchantée dans les carrières, et notamment dans ces moments où les joueurs sont un peu dans le dur. Griezmann a fini par avoir du mal à être attrapé par ses poils au Barça, mais l'année dernière, pendant longtemps, c'était l'endroit où il se sentait bien, parce qu'il sait qu'on lui fait confiance. Faut-il continuer à faire...
Puis même cet automne, c'est 3 buts, je crois, hein, Griezmann, depuis septembre. Donc ça reste des statistiques.
Faut-il faire confiance à Varane, Pogba et Griezmann? Alors, si je ne me trompe pas, Varane et Pogba sont nés en 1993. Donc, ils ont 27 ans. Et Griezmann, c'est en 91, s'il me semble. Donc, il a 29 ans. C'est des mecs qui ont moins de 30 ans, qui sont encore dans leur prime ou qui vont peut-être l'atteindre. Donc voilà, il ne faut pas faire toute une histoire de ce qui se passe parce qu'on peut prendre les joueurs un par un. Varane, tu l'as dit, il joue beaucoup trop en ce moment. Et pourquoi c'est un problème? Ça ne serait pas un problème s'il était en forme, évidemment, on dirait peut-être le contraire. Mais à partir du moment où la machine s'est mal réenclenchée face à City, que ça n'a pas fonctionné, eh ben, il n'a pas ce moment pour souffler un peu et se régénérer et peut-être retrouver la confiance. Voilà. Pogba, il n'a pas beaucoup joué au début, mais il est toujours dans ce marasme de Manchester United. Et quant à Griezmann, évidemment, il essaye de ressortir la tête de l'eau de Barcelone, mais ce n'est pas évident. Voilà. Donc je pense que je ferai je les mettrai pas dans les boulets potentiels, évidemment non. Mais ce qui est difficile en revanche, comme tu le sais Martin, c'est que pour le savoir, c'est même pas le Portugal qui le dira, c'est pas la Suède, c'est l'Euro au mois de juin. Mais
moi c'est ce qui me donne beaucoup de confiance en ces trois-là.
Voilà.
C'est que même si Deschamps les prend à un Varane lessivé par une saison trop longue avec le Real Madrid, s'il prend un Paul Pogba je sais pas, qui fait 3 mois sur le banc, imaginons entre février et mai, et qui prend un Griezmann en crise totale de confiance, qui a marqué, je sais pas, 8 buts cette saison. Deschamps, il a 3 semaines, 1 mois pour les préparer. Et il va savoir y faire, comme il l'a fait à la Coupe du Monde 2018. Pogba, c'est très souvent où il est arrivé en équipe de France, en étant quand même en club et notamment à Manchester United. Souvenez-vous de l'ère Mourinho, où il était quand même un peu contesté en club. Deschamps l'a remis sur pied. On se souvient de la Coupe du Monde 2018 hein, où il l'a remis sur pied. Varane, c'est la même chose. Varane, combien de fois j'ai entendu sans Ramos, Varane, c'est une catastrophe. En équipe de France, allez, on va dire 8 fois sur 10, ça se passe très très bien. Griezmann, c'était pareil l'année dernière avec le FC Barcelone, tu l'as dit. Donc, je ne me fais pas immensément de soucis pour eux, d'autant que la concurrence à leur poste, et vu leur profil, il n'y a pas vraiment de plan B derrière ces mecs-là. Il n'y a pas vraiment de plan B. Donc, ils savent qu'ils sont installés. Ils savent qu'ils ont leur précaré. Ils savent qu'ils ont autorité sur le groupe. Donc finalement, ils sont dans un fauteuil en équipe de France, contrairement au club. Et c'est ce qui leur permet de donner leur pleine mesure. Et ce sera le cas encore à l'Euro, Maxime.
Ouais, il y a deux choses. C'est-à-dire que, comme tu dis, on est dans une période aussi qui est difficile. C'est une année 2020 qui correspond à rien au niveau de ce qu'on a vu auparavant. Les joueurs jouent sur un rythme effréné. Trois matchs internationaux en octobre, trois matchs internationaux en novembre. Rappelez-vous quand même que novembre, c'est toujours la période. Moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis journaliste. Ça fait 20 ans que j'entends. À novembre, c'est difficile. Quand vous allez au rassemblement de l'équipe de France, on vous dit... Ah ouais, là, on pioche, là, parce que ce moment où les clubs... Il y a un premier contre-coup physique de la préparation, et en plus, cette fois, il n'y en a pas eu.
Il y a la Ligue des Champions qui
a Ligue des Champions, et en plus, une Ligue des Champions qui est complètement écrasée sur 7 ou 8 semaines, donc c'est compliqué, voilà. Donc moi, je ne tirerai pas de conclusion de ce qu'on voit là, surtout qu'on peut dire tout et son contraire. Le rassemblement précédent, c'était le retour de Pogba après 16 mois d'absence en équipe de France. Bah, il a été très bon, Pogba, voilà. Alors que Manchester, il n'était pas forcément meilleur. Voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et tu l'as dit, il y a aussi trouvé des remplaçants à ces joueurs-là. Il y a aussi le crédit et ce qu'ils ont apporté à l'équipe de France. Ils ont encore un crédit XXL. Et c'est tout à fait normal. Ça serait complètement délirant aujourd'hui que Deschamps dise « bah non, je le sors lui parce que ça ne fonctionne pas ». Maintenant, je vais te poser une question à mon tour.
Attends, je me prépare. Je me redresse.
La question provocatrice à mon tour. Si tu devais en remplacer un, lequel, pour toi, serait le plus simple à suppléer de ces trois-là, si tant est que demain, il est vraiment à la rue totale et que ça continue sur des mois?
Alors, le plus simple à remplacer pour moi, sans remettre en cause... la compétitivité de l'équipe de France sera touchée, quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'elle sera moins touchée si on remplace Varane plutôt que Pogba et Griezmann. Et je m'explique. Griezmann et Pogba sont essentiels dans le jeu de l'équipe de France et leur profil unique fait qu'ils sont irremplaçables dans ce système-là. On le sait, l'équipe de France a construit son succès sur du jeu de transition. Pogba, il est essentiel, c'est peut-être le joueur le plus essentiel. Allez, Griezmann et Pogba sont les deux joueurs les plus essentiels pour moi dans le sacre mondial en 2018. Je prends Varane parce que l'équipe de France a déjà réussi sans Varane. C'était à l'Euro 2016. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire jusqu'ici avec Pogba et avec Griezmann. Évidemment, elle n'a pas gagné l'Euro. Elle a échoué en finale. Malgré tout, elle a fait un super tournoi. Et il y a plus de profondeur derrière Varane, même si, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Varane est large. Non, mais Varane, par rapport à la concurrence, il a 10 trains d'avance. Mais malgré tout, Upamecano, Koundé, Fofana, Zuma, il y a beaucoup de variétés de profils. Derrière Pogba, c'est qui? C'est Tolisso qu'on a déjà vu en équipe de France. Et en termes d'impact sur le jeu de l'équipe de France, il a des années-lumière de Pogba. Et Griezmann, j'en vois même pas. Donc c'est pour ça que je mettrais quand même Varane, même si ce serait évidemment un coup très dur pour
bah moi, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec toi, Martin. Parce que justement, comme tu l'as dit si bien, c'est vrai qu'on voit dans le jeu, dans l'animation, l'importance de Griezmann et de Pogba. Et pour Griezmann, c'est indiscutable, évidemment. Pour Pogba, je pense que ce ne serait pas forcément plus simple remplacer que Varane. Pourquoi Varane? Parce que on voit pas. Fais ta défense aujourd'hui sans Varane, mets un nom, celui que tu veux à la place. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et dans le sacre mondial, on sait qu'on a beaucoup parlé de la défense de l'équipe de France. Le match contre la Belgique de Varane, il est d'un niveau XXL exceptionnel. Et je pense pas qu'il y ait un autre défenseur ce soir-là ou dans toute cette liste-là qui serait capable de monter à un tel niveau. Je pense qu'un Varane et le Varane d'aujourd'hui, évidemment. Il n'est pas au niveau, mais le Varane au sommet, je pense qu'on a tort de penser. Et comme tu l'as dit, des fois, injustement, dire quand il n'y a pas Ramos à côté, bah oui, mais à Coupe du Monde, il n'y a pas Ramos à côté, ça s'est très bien passé. Donc je pense que Varane serait quand même hyper, 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 hyper compliqué à remplacer. Et s'il y en avait un qui était un peu plus sur la selle des trois, pour moi, ce serait quand même Pogba aujourd'hui.
Mais après, avec Dessy. Celui pour lequel je me fais le plus de soucis aujourd'hui, c'est Pogba. Parce que pour moi, c'est lui dont la situation en club déteint le plus sur l'équipe de France. Parce que Griezmann, on a l'impression qu'il s'est déconnecté, en fait. Que même s'il joue pas au FC Barcelone, quand il est en équipe de France, il a tellement les clés, il est tellement dans un fauteuil que ça marchera. Pogba, on sait qu'avec Solskjaer, ça se passe très très mal. Ça s'est mal passé avec Mourinho. Et Pogba, il a déjà été beaucoup plus irrégulier en équipe de France qu'Antoine Griezmann depuis 2016. Voilà. Donc, c'est pour lui que je me ferai aujourd'hui le plus de soucis. Voilà, pour clore.
Mais on va spoiler, hein. À l'Euro, ils seront là tous les trois,
les titulaires,
il n'y a pas de problème. Mais la seule chose qu'on ne sait pas, c'est s'il y aura l'Euro.
Maxime, on l'appelle Transition Man et c'est pas pour rien. L'homme qui dégaine la transition plus vite que son ombre, parce qu'on va terminer cette émission en se posant la question. On est toujours en pleine pandémie de Covid-19. La seconde vague est en train de submerger l'Europe. Et donc, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on peut faire un championnat d'Europe organisé plein de pays européens différents, dans des villes différentes, dans des stades différents? Est-ce que cet Euro 2021, Maxime, est aujourd'hui menacé, en danger, ou est-ce que, quoi qu'il arrive, il se déroulera?
Alors, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être un moment où il faudra renoncer, mais je pense qu'à 99,9%, retenez ce chiffre, il y aura un Euro 2020 en 2021, bah, tout simplement parce que je vois mal l'UEFA aujourd'hui s'asseoir sur la poule aux œufs d'or qu'est l'Euro, parce qu'évidemment, la seule question qu'on peut se poser pour moi, c'est à quelle forme, à quoi ressemblera cet Euro. Parce que, évidemment, les stades en folie aux quatre coins de l'Europe, c'est compliqué. Rappel important, cet Euro 2020 est le premier Euro itinérant de l'histoire du championnat d'Europe.
Ça tombe mal.
Ça tombe très mal, voilà. Normalement, il est organisé dans 12 villes. L'équipe de France, pour vous donner un exemple, ils doivent jouer à Munich le 15 juin, il me semble, contre l'Allemagne. Et ensuite, le 19 et le 23, ou un jour près, c'est à Budapest contre la Hongrie, qui s'est qualifiée jeudi soir, et contre le Portugal. Donc, l'équipe de France pourrait avoir à visiter 5 ou 6 villes tout au long du championnat d'Europe. Et évidemment, ça ne semble pas trop en phase avec le moment. C'est aussi pour ça que l'UEFA, on a entendu aussi des rumeurs un peu folles d'un Euro qui aurait lieu en Russie, parce que la Russie venait d'accueillir la Coupe du Monde et que la Russie est, on va dire, prête au niveau des infrastructures. Ce n'est pas d'actualité encore. Mais il est sûr que, a priori, c'est au mois de mars, lors d'un comité exécutif de l'UEFA, que tout cela va se décider. Ce qui me fait penser aussi que si l'UEFA attend le mois de mars, c'est qu'ils n'ont pas trop de doutes sur la tenue, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais il faut peut-être commencer à avancer. Donc je pense qu'il est aussi bien urgent d'attendre, parce que la pandémie va évoluer et que peut-être que dans 6 mois, ça ne ressemblera pas à ce qu'on a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je ne suis pas certain que l'inquiétude soit XXL. Et encore une fois, je pense que l'UEFA ne peut tout simplement pas se priver d'euros, pardon, comme elle ne s'est pas privée de Ligue des Champions.
Voilà, parce que c'est qu'il y a un précédent, Maxime, et c'est moi, c'est ça qui me rassure, entre guillemets. C'est qu'on a déjà réussi à organiser une compétition qui réunit des équipes de différents pays et que tout s'est très bien passé. C'est le Final 8 à Lisbonne. Alors oui, il n'y avait que 8 équipes. C'était sur un temps un peu plus ramassé. Malgré tout, le Final 8 a montré la voie à suivre potentiellement pour l'Euro. Si toutefois la pandémie, il y a une troisième vague, une quatrième vague ou que sais-je, si la pandémie ravage encore l'Europe comme elle ravage l'Europe aujourd'hui, il y a toujours cette solution à t'organiser dans un ou deux ou trois pays qui sont très proches cet euro-là. Moi, je prends. On sait que la finale et la demi-finale vont se jouer à Londres, doivent se jouer à Londres. Si, je ne sais pas, les pays de l'Est sont particulièrement touchés, ou si, pourquoi ne pas regrouper toutes les équipes dans un pays ou même dans une ville comme Londres? On crée une bulle comme on a créé à Lisbonne, comme on a créé en NBA de façon encore plus drastique, et on fait jouer cet euro dans la ville de Londres, qui est, alors au niveau infrastructure, il y a 150 stades de première ligue, hein. Il y a Wembley, il y a l'Emirates, il y a Stamford Bridge, enfin, il y en a plein. Donc, si vous voulez, il y a des solutions de recours, il y a des voies de garage. À cet euro, si toutefois il ne peut pas se jouer dans cette constellation de pays comme c'était prévu à la base, je pense que l'UEFA a un deuxième coup dans la manche, et je pense que comme toi, Maxime, il se déroulera d'une façon ou d'une autre.
Ouais, et on a choisi Londres parce que alors, on a parlé du Final 8 à Lisbonne, mais là il y a 8 équipes, donc c'est pas exactement la même taille. Là, on est à 24 équipes. Et pourquoi Londres? Parce que c'est une des plus grandes capitales européennes. Infrastructure touristique, évidemment, hôtelière, il y a ce qu'il faut. Il suffit, entre guillemets, de bloquer 24 hôtels. Évidemment, vous payez le prix fort, mais vous bloquez des étages, vous créez une bulle. Et pourquoi la NBA? Tu parles de la NBA, justement, parce que tout s'est organisé à Orlando, dans le complexe de Disney. Il suffit de tout bloquer. Ils avaient 22 équipes. Donc, 22 équipes, ça ressemble un peu, c'est un peu plus petit, c'est des équipes NBA, évidemment, il y a moins de joueurs. Mais quand même, vous êtes à peu près sur les mêmes bases. Et tu l'as dit, à Londres, il y a des grands stades partout, et on a même mis sur notre carte Twickenham, parce que Twickenham, c'est pour l'équipe d'Angleterre de rugby, et c'est un stade évidemment qui a la marge pour accueillir des grandes rencontres internationales. Donc ce serait, on va dire, la solution, j'exagère, de facilité, Et d'autant plus que, bah, comme tu l'as dit, Wembley a les demi-finales, Wembley a les matchs de l'Angleterre. Il se taille déjà la part du Lyon. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à imaginer un Euro qui ne se joue pas. La dernière question qu'on aurait avec une bulle comme ça, c'est est-ce qu'on fait une bulle complètement cloisonnée, c'est-à-dire est-ce qu'on met des spectateurs dans les stades?
Bah, là, aujourd'hui, c'est impossible de répondre.
Aujourd'hui, c'est impossible
de répondre à cette question. Donc, pour moi, effectivement, la dernière inconnue, c'est qui il y aura en tribune. Quel nombre, quelle jauge, s'il y aura déjà du monde en tribune ou pas. Puis dernière chose, effectivement, l'Euro 2020 a été annulé, mais les délais étaient très courts quand la Covid a commencé à frapper le continent. Là, aujourd'hui, l'UEFA a quand même du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, elle a du temps pour adapter son programme, pour adapter sa compétition. L'Euro, c'est pas demain. Donc, on peut être sûr on peut jamais être sûr, mais comme tu le disais, à 99,99%, cet euro se tiendra. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur les lieux, sur les spectateurs, etc. Mais il devrait y avoir des équipes qui s'affrontent et un tournoi final.
Et si jamais l'UEFA a des problèmes pour créer la bulle, ils ne savent pas comment faire, qu'ils aillent demander à Raymond Domenech, lui, quand il était sélectionneur. Il savait très bien faire la bulle autour de son équipe. C'était complètement imperméable, complètement étanche. Je suis sûr qu'il aidera.
Merci Maxime pour cette dernière petite remarque qui, je suis sûr, plaira à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'il nous écoute. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du FC Stream Team. Je vais y arriver. On vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les meilleurs extraits de cette émission sur eurosport.fr tout au long du week-end. Voilà, vu que l'équipe de France joue samedi, je pense que ce sera que jusqu'à samedi. Et Maxime, évidemment, on peut retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes.
Voilà, je les répète encore une fois, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et compagnie, vous le retrouvez sur le
site. Et j'espère que tu as des abonnements gratuits, Maxime, parce qu'à force de
dire. Ah non, mais le podcast est gratos hein, quand même déjà. Donc,
oui, c'est vrai, c'est complètement con comme remarque. C'est vrai que là, on touche à mes limites surtout. Merci à tous.
Vas-y. Merci Adrien à la réalisation, merci Quentin au visuel et merci Tristan encore une fois pour cette lettre qui nous a fait très 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 plaisir. Et promis, la semaine prochaine, Martin fera une meilleure présentation.
N'hésitez pas à envoyer votre courrier du cœur à Maxime Dupuis, 37 places de la République. Je ne vous donne pas évidemment la ville, mais remarque, il y a Maxime Dupuis, il y en a beaucoup, donc il va pas être facile à trouver. Sinon, envoyez votre courrier du cœur à Eurosport à Maxime, hein, il ouvrira ça. Et mettez un petit peu de parfum. Mettez un petit peu de parfum sur la lettre.
Parce qu'on lit tout, hein. On lit tout.
En même temps, il y a pas.
On est des fous.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.